Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Les différentes activités du pape François, c'est tout à l'heure en actualité de l'Église, avant de nous enquérir des nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est au Ghana et au Bénin notamment. L'actualité sociopolitique quant à elle nous conduira en Libye, en Ouganda et en Éthiopie. Bienvenue encore et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le Saint-Père a adressé un message vidéo à la clôture de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical de la culture qui se tenait mardi en ligne. Dans ce message, François s'est dit frappé par le thème de cette plénière « Repenser l'anthropologie, un humanisme nécessaire ». En effet, à ce moment de l'histoire, a dit le pape, nous avons besoin non seulement de nouveaux programmes économiques et de nouvelles formules contre le virus, mais surtout d'une nouvelle perspective humaniste fondée sur la révélation biblique, enrichie par l'héritage de la tradition classique, ainsi que par les réflexions sur la personne humaine présente dans les différentes cultures. Au chapitre des nominations, mardi, le Saint-Père a nommé Mgr Thomas George Schlepp, fonctionnaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, à la tête du bureau. Lundi, en début de soirée, le pape a rencontré à huis clos l'épiscopat italien, réunis en assemblée plénière jusqu'au jeudi 25 novembre dans un hôtel de la capitale italienne pour leur 75e assemblée générale extraordinaire. Lors de cette rencontre privée, le pape a remis aux évêques une image du bon pasteur ainsi qu'un texte des béatitudes de l'évêque. Prononçant le mot de bienvenue au pape, le président de la conférence épiscopale italienne, le cardinal Gualtiero Bassetti, l'a remercié pour le don de sa présence et l'a assuré, citant les paroles de Paul VI, que le travail de ses jours sera une redécouverte de la parole du Christ dans les recueillements et une occasion de raviver la foi. Direction Ghana. La paroisse du Saint-Sacrement de l'archidiocèse d'Accra avait lancé sa toute première exposition commerciale afin de s'attaquer au problème du chômage chez les jeunes. Organisé à l'occasion de la 36e journée de la jeunesse, ce salon commercial et d'exposition devrait être une activité régulière du calendrier de la paroisse afin d'encourager les jeunes de l'église à créer des entreprises génératrices de revenus en utilisant des compétences techniques et créatives. Restons dans le même chapitre de la 36e journée mondiale de la jeunesse, cette fois dans les diocèses de Lubumbashi, Kabinda et Lissala. Nous sommes en République démocratique du Congo.
L'archevêque de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, a célébré la solennité du Christ roi de l'univers le dimanche 21 novembre au domaine marial de Lubumbashi. Des milliers de jeunes ont participé à la messe dédiée aux journées diocésaines des jeunes. Monseigneur Fulgence Muteba a saisi l'occasion pour mettre les jeunes en garde contre la séduction des mouvements dits mystiques. N'y entrez pas, mettez-vous plutôt sous la coupole du Christ roi de l'univers, a recommandé l'archevêque de Lubumbashi. Au diocèse de Kabinda, dans la province de la Lomami, l'évêque a invité le jeune à ne pas être le marchepied des politiciens. Monseigneur Félicien Tamboué expliquait le message du Saint-Père François pour la journée de la jeunesse. Le jeune était venu très nombreux à la messe célébrée sur l'esplanade du lycée Tuivulenei. Au diocèse de Lissala, dans la province de la Mongala, le lundi 22 novembre, l'évêque a réuni tous les jeunes de différentes paroisses venus à Binga pour célébrer les journées diocésaines des jeunes. Il les a félicités et encouragés pour leur engagement dans les commissions paroissiales des jeunes. La paroisse Saint-Paul de Binga avait été choisie par Mgr José Bernard Licolo pour rassembler les jeunes de son diocèse. Dans l'homélie de la messe célébrée le dimanche 21 novembre, l'évêque avait posé des questions pour la méditation de chacun au-delà de la fête. Jean-Baptiste Malingue Kalunzu pour Radio Vatican.
Le Conseil national du laïcat catholique de Côte d'Ivoire avait ouvert dimanche 21 novembre 2021, au cours d'une messe en la cathédrale Saint-André de Yopougon, la 4e édition de sa semaine nationale autour du thème « Le Conseil diocésain du laïcat, modèle d'intendant du diocèse ». Reportage.
Au cours de cette messe d'ouverture, présidée par le père François Koménan Kanga, le directeur national des œuvres catholiques et secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour la famille, les pèlerinages et l'apostolat des laïcs dans son homélie, a invité les laïcs à prendre toutes les places dans l'église et cela en imitant le Christ dans toute la plénitude de sa royauté.
En le laissant être plus présent dans notre vie, c'est ainsi que nous pourrons être de vrais modèles d'intendants dans nos diocèses respectifs. Chers membres du laïcat, chacun doit être missionnaire de la royauté du Christ et se sentir responsable de l'Église.
Et cette semaine nationale du laïcat qui a lieu dans tous les diocèses de la Côte d'Ivoire a pour objectif de faire mieux connaître auprès des fidèles le rôle et l'importance du laïcat dans l'Église, mais surtout inviter les mouvements, associations et groupes de prière à travailler dans un esprit de communion afin de prendre une part active dans l'évangélisation et dans la société. Elle sera meublée selon Michel Etanon, deuxième vice-président du bureau exécutif du Conseil national du laïcat catholique de Côte d'Ivoire, par plusieurs activités, entre autres un enseignement sur le thème national, une campagne d'évangélisation, une conférence publique sur un sujet d'actualité. Notons que la messe de clôture de cette édition 2021 de la Semaine nationale du laïcat est prévue pour le dimanche 28 novembre prochain en la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon-Niangon, Cité Verte. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Direction Togo, parlons du traditionnel pèlerinage diocésain au sanctuaire marial de Kpimeseva, organisé samedi dernier.
Le traditionnel pèlerinage diocésain de Palimé au sanctuaire marial de Kpimeseva s'est effectué cette année par doyenné, ce samedi 21 novembre, afin d'éviter le rassemblement d'une trop grande foule en cette période de pandémie à coronavirus. C'est ainsi que les deux doyennés de Palimé Ouest et Palimé Est se sont rassemblés à l'école primaire catholique de Kusuntu, le doyenné d'Agou au collège Saint-Jean-Baptiste, le doyenné d'Adeta à la grotte mariale de Konda, le doyenné de Noche chez les missionnaires de Jésus et de Marie à Abala, le doyenné de Ton sur la paroisse et le doyenné de Danyi à l'abbaye bénédictine de Zobégan. Dans la ville épiscopale où Mgr Benoît Alorno, évêque du diocèse, a lui-même présidé l'Eucharistie, les pèlerins ont prié pour l'événement, pour le diocèse et pour que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Confiance, protège tous de la maladie et de tout danger. Enfants, jeunes, adultes et même des personnes âgées, le chapelet pieusement en main ont prié avec ferveur. L'accueil solennel de l'icône de la Vierge Marie avec une prière faite par deux enfants, puis l'exécution de l'hymne marial en l'honneur de Notre-Dame de la Confiance a été un des moments mémorables de cette journée. Au terme de ce pèlerinage, Mgr Benoît Alorno a annoncé le thème de cette année pastorale, à savoir « Accueillons la parole du Christ, devenons ses amis ». Gustave Wam, Dapan pour Radio Vatican.
Refermons cette page de l'actualité de l'Église par un colloque organisé au Bénin en souvenir de la signature de l'exhortation apostolique post-synodale Africhemonus du pape Benoît XVI ainsi que des 160 ans d'évangélisation continue du Bénin. Notre correspondant local nous en parle.
Le colloque initié par les évêques de la conférence épiscopale du Bénin dans le double cadre de la célébration des 160 ans d'évangélisation continue du Bénin et du 10e anniversaire de la signature par le pape Benoît XVI dans leur pays de l'exhortation apostolique post-synodale Africhemonus a connu son épilogue le vendredi 19 novembre 2021 à la place Monseigneur Stamese du Grand Séminaire Saint-Gall de Ouida. L'Église de Dieu au Bénin, 160 ans d'évangélisation. Quelle foi ou quel peuple, les principaux atouts et défis pour une véritable incarnation de l'évangile au regard de Africhemonus. Près de 300 participants ont été mobilisés par les organisateurs autour de ce thème du colloque monnayé en plusieurs sous-thèmes, développé par des communicateurs avertis, débattu par des participants enthousiastes et discuté en carrefour assorti de plusieurs recommandations. La rencontre s'est déroulée sous les yeux de quatre évêques de la conférence épiscopale, dont le président Mgr Victor Agbanou qui a ouvert et clôturé le colloque, son secrétaire général Mgr Aristide Gonzalo qui a prononcé la conférence inaugurale, Mgr Claire Feliho de Kandi et Mgr François Nkosu de Tassassoumé. En attendant la lecture des recommandations du colloque au cœur de la messe de clôture du jubilé, le samedi 20 novembre 2021 à la basilique de Ouida, un avant-goût nous en a été donné par le rapporteur général, le père Mathieu Haïfan.
Nous voulons une église qui encourage les chrétiens à s'engager en politique, engager résolument pour les pauvres.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La haute commission électorale libyenne a annoncé mardi que 98 candidats dont deux femmes avaient soumis leur dossier pour briguer le poste de chef d'État en décembre, au lendemain de la clôture du dépôt des candidatures. La liste définitive des candidats sera publiée dans 12 jours, une fois que les vérifications, recours et appels auront été complétées, a indiqué Imad Al-Saye, directeur de la haute commission électorale libyenne. La police ougandaise a annoncé mardi l'arrestation de 4 Somaliens soupçonnés d'avoir apporté un engin explosif présumé dans un hôtel qui doit accueillir le président Yoweri Museveni une semaine après un double attentat qui a fait 4 morts à Kampala. Le détonateur a été découvert lundi lors d'une inspection de routine du véhicule des suspects dans l'hôtel Speke Munyonyo situé en périphérie de Kampala, a indiqué un porte-parole de la police. En Éthiopie, la situation reste encore tendue. Les chefs d'État sud-africains et kényans ont appelé mardi à un cessez-le-feu alors que la rébellion progresse vers la capitale. Le Programme alimentaire mondial a de son côté annoncé une opération d'aide humanitaire en faveur des civils. Le point avec Stanislas Kambashi.
La situation en Éthiopie ne laisse pas tranquilles certains leaders africains. Mardi, les chefs d'État sud-africains et kényans ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans ces pays où un conflit local se rapproche de la capitale Addis Abeba et menace le régime en place. Les parties au conflit doivent d'urgence s'engager à respecter un cessez-le-feu immédiat, illimité et négocié, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'issue d'un entretien à Pretoria avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. Lundi, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait déclaré vouloir aller lui-même sur le front pour diriger les soldats affrontant les rebelles, alors que la coalition rebelle, le Front de libération du peuple du Tigré, soutenu par l'armée de libération Oromo, affirme progresser vers Addis Abeba. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a annoncé mardi le lancement d'une opération d'aide humanitaire pour aider plus de 450 000 personnes dans le nord de l'Éthiopie, plus précisément à Dessie et Kombolcha.
Stanislas Kambashi. La méfiance autour du vaccin anti-Covid en Gambie ralentit la vaccination contre la polio dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, a affirmé mardi un responsable médical 3 jours après le début d'une campagne ciblant les enfants. La Gambie, déclarée en 2004 exempte de poliomyélite, a lancé le 20 novembre sa première campagne de vaccination contre la polio depuis la réapparition du poliovirus dans des échantillons d'eau usée environnementale en août.
Radio Vatican, Français-Afrique, Donatien Niembo.
Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, a perdu le contrôle de Johannesburg, le conseil municipal ayant choisi lundi une femme issue de l'opposition à la tête de la mairie de la plus grande ville du pays. Mpo Palatse du parti de l'Alliance démocratique devient la première femme noire à diriger la mairie de Johannesburg, la première femme depuis 1946. Au moins 9 gendarmes et une dizaine de civils ont été tués dimanche à Foubé, dans le nord du Burkina Faso, lors d'une attaque attribuée à des djihadistes, a annoncé lundi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura. Des dizaines de personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans des attaques de villages et d'un site déplacé en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ont indiqué des sources concordantes. Une source de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, a indiqué que 16 000 déplacés des Drodro ainsi que des habitants du village qui fuyaient les violences avaient été conduits dans un camp des deux placés voisins à Roé, près d'une base temporaire des casques bleus, où 21 000 autres déplacés sont déjà hébergés. Notre programme se poursuit avec le magazine sur les développements avec Marie-Josée Mwando Boaboualou.
Le magazine sur le développement concerne aujourd'hui l'industrialisation du continent africain. Les pays africains célèbrent la journée de l'industrialisation de l'Afrique le 20 novembre de chaque année. Cela depuis sa proclamation le 22 décembre 1989 lors de la 44e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Tous les 20 novembre, la communauté internationale et plus particulièrement les pays africains célèbrent cette journée pour inciter les pays à s'engager davantage dans le processus industriel pour susciter une prise de conscience au niveau mondial et mobiliser l'appui international en faveur du développement industriel du continent africain. La journée de l'industrialisation de l'Afrique, décrétée par les Nations unies, permet chaque année d'aborder des problèmes liés au développement industriel durable et d'évaluer les stratégies d'atteinte des objectifs visant à faire des Africains des partenaires égaux. Il ne s'agit plus seulement de produire, mais d'être compétitif pour espérer tirer profit des marchés de plus en plus ouverts et concurrentiels. Cette compétitivité nécessaire pour un accès facile au marché dépend de la disponibilité des ressources humaines qualifiées, d'infrastructures économiques viables, d'un cadre juridique favorable à la prise de décisions commerciales sur les marchés. Afin de relever le défi de l'accès au marché, les pays doivent coordonner et harmoniser leurs points de vue et parler d'une seule voix en matière de négociations commerciales, notamment dans le cadre des accords de partenariat économique. Rappelons que la majeure partie de la population africaine dispose de moins d'un dollar par jour pour vivre et que 34 des 48 pays les moins avancés du monde se trouvent en Afrique. Pour éliminer la pauvreté, il faut donner aux pauvres accès aux services et les aider à s'aider eux-mêmes. L'éducation, la santé, les moyens de subsistance, la nutrition, l'hygiène et le logement sont autant d'éléments importants pour lutter contre la pauvreté. Toutefois, il existe un autre élément dont on s'est peu préoccupé ces dernières années, le rôle de l'industrialisation dans l'élimination de la pauvreté. L'industrie crée des emplois, accroît les revenus, augmente la valeur des produits agricoles, favorise le progrès technologique, ouvre des perspectives économiques aux femmes et produit des recettes qui permettent au gouvernement de réduire et d'éliminer la pauvreté. La communauté internationale doit intensifier son appui en Afrique en allégeant sans plus attendre le poids de la dette des pays les moins avancés, en améliorant l'accès des produits africains aux marchés internationaux, en encourageant les investissements étrangers et en augmentant l'aide publique au développement. L'objectif de la Journée internationale pour l'industrialisation de l'Afrique est d'intégrer le développement industriel dans les priorités des politiques et stratégies nationales de développement socio-économique afin de susciter une prise de conscience au niveau mondial en faveur du développement industriel de l'Afrique, d'amener la communauté internationale à œuvrer résolument en faveur de l'industrialisation de l'Afrique. Le développement industriel dans les pays africains est une condition indispensable d'une croissance soutenue et inclusive. L'industrie accroît la productivité en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques. Elle améliore ainsi l'efficacité de la main-d'œuvre et crée de nouveaux emplois. L'articulation entre l'industrialisation et les économies nationales aiderait les pays africains à atteindre des taux de croissance élevés, à diversifier leurs économies et à réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. Cela contribuerait substantiellement à l'éradication de la pauvreté par la création d'emplois et de richesses. Le thème choisi cette année pour la journée de l'industrialisation de l'Afrique était « Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé en faveur de l'industrialisation inclusive et durable et de la diversification économique ». Ce thème est important notamment pour le secteur privé industriel, créateur de richesses, d'emplois décents et moteur du développement. Cette célébration est également l'occasion de s'interroger sur les solutions à mettre en œuvre pour lancer la campagne industrielle du continent et combler le fossé qui les sépare des pays développés. Signalons pour terminer que le Niger accueille quelques 4500 participants devant prendre part du 20 au 24 novembre à Niamey au sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation.
Place à la rubrique sur l'œcuménisme et dialogue interreligieux avec Françoise Niamia.
Commençons notre rubrique consacrée à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux par l'appel à la paix en Éthiopie du comité exécutif du Conseil œcuménique des Églises. Cet appel a été réitéré mercredi dernier dans une déclaration publique. Le Conseil œcuménique des Églises s'est associé à la prière à la solidarité avec les Églises et le peuple éthiopien confronté à une crise grave qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Le comité exécutif a réitéré et souligné les craintes abordées dans sa déclaration de novembre 2020 concernant l'instrumentalisation politique des différences ethniques menaçant le tissu même de la nation et la sécurité de tous ses habitants. Une fois de plus, nous exhortons toutes les parties au conflit violent actuel à se souvenir de l'extrême souffrance infligée au peuple éthiopien par les conflits et les divisions d'hier et d'aujourd'hui. Le comité exécutif du Conseil œcuménique des Églises avait également lancé un appel à la prudence face au risque d'une nouvelle catastrophe. Les victimes de ce nouveau conflit sont et seront le peuple éthiopien, peut-on lire dans cette dernière déclaration. Dans une autre déclaration publique, le Conseil œcuménique des Églises a récemment exprimé sa profonde inquiétude face aux événements récents en Palestine et en Israël qui sont le reflet d'une aggravation de la situation dans la région, symbole des manières dont l'occupation militaire actuelle des territoires palestiniens fait obstacle à l'instauration d'une paix juste entre les peuples de la Terre Sainte. La déclaration conclut que le comité exécutif du Conseil œcuménique des Églises en appelle à nouveau à la conscience du monde face à l'occupation militaire incessante des territoires palestiniens et sur la marginalisation et l'obstruction permanente des aspirations légitimes des Palestiniens à une dignité humaine et aux mêmes droits pour tous. La compassion est le mot-clé qui unit aujourd'hui les croyants de différentes religions au Vietnam, unis pour apporter aide, tendresse, consolation, espoir aux malades et aux souffrants, en particulier à ceux qui sont à l'hôpital et qui luttent contre la COVID-19. C'est ce qu'ont déclaré divers chefs religieux lors de la 11e conférence organisée ces derniers jours par le Comité pour la solidarité religieuse de Ho Chi Minh Ville, parrainé par l'archidiocèse catholique de Ho Chi Minh Ville. Le rassemblement a rapporté des histoires et des expériences qui, au nom de la solidarité, ont impliqué des croyants de différentes religions et professions unis dans le partage ou la même compassion pour les êtres humains, en particulier pour les patients qui souffrent et luttent contre la maladie pour retrouver une vie normale. Une vaste expérience de partage promue par la ville a réuni ces derniers mois les 682 volontaires de différentes confessions qui ont collaboré avec le personnel médical et vécu en harmonie une période décrite comme belle et paisible, œuvrant pour le soulagement physique, émotionnel, psychologique et spirituel des personnes souffrantes. Les responsables présents ont déclaré « Les communautés religieuses se sont rapprochées en travaillant ensemble pour servir les malades de COVID-19. Les nonnes bouddhistes et les sœurs catholiques ont partagé la nourriture matérielle et spirituelle. Il n'y avait aucune distinction d'âge, d'ethnie, de religion. Tous regardaient dans la même direction, c'est-à-dire dans le but de servir l'être humain avec amour. Cela a laissé une trace d'amitié, d'amour et d'estime mutuelle dans le cœur des dirigeants et des croyants impliqués. Monseigneur Joseph Nguyen Nang, archevêque de Ho Chi Minh Ville, a déclaré dans son discours à l'Assemblée « Cette communion d'objectifs n'est pas seulement le fruit de la compassion, mais aussi de la reconnaissance de la profonde dignité que Dieu a accordée à chaque personne. L'archevêque a exprimé l'espoir que l'œcuménisme et la coopération entre les religions au Vietnam continueraient à se développer, notamment à travers les difficultés.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Au nom de tout le service français Afrique, Donatien Nyembo vous remercie pour votre écoute fidèle. Au revoir.
Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh, oh.